Bienvenue comme chaque semaine à l'écoute d'Alter Echo, en studio cette semaine, Nicolas et Olivier, puisque l'autre Nicolas est toujours à Montréal. Alter Echo, vous le savez, c'est chaque semaine en direct le mercredi à 22h sur Radio Campus. Exceptionnellement, cette émission-ci est enregistrée pour des raisons que nous vous expliquerons plus tard. Rediffusion le vendredi à 14h, toujours sur Radio Campus 107.2, et puis également une rediffusion le mardi matin vers 10h sur Radio Panique 105.4, et puis toujours le site internet www.collectifaupluriel.net/alterecho en un mot et avec CH. Cette semaine, deux sujets dans cette émission. Tout d'abord, nous accueillerons Jean-Nicolas Marron en studio. Jean-Nicolas nous revient de Palestine, où il est allé faire un tour. Il est rentré début avril et il a beaucoup de choses à nous raconter. Et puis ensuite, nous ferons un petit topo sur la France et le fameux résultat électoral et la perspective du deuxième tour.
Jean-Nicolas, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Nous voici donc sur le site de l'ULB. Je pense que vous avez été étudiant à l'ULB il y a quelques années.
Oh, j'ai usé mes fonds de culotte il y a une vingtaine d'années, notamment en journalisme. Donc j'ai quand même passé par ici, bien que je ne sois jamais venu à campus, mais je me rappelle de quelques manifestations, notamment d'une occupation de l'ambassade de Syrie qui m'a valu un petit séjour à l'hôpital. Donc voilà, je dirais. Si on me demande pourquoi je ne suis pas parti en Palestine, les raisons sont peut-être multiples et ça remonte à il y a de longues années. Donc
C'est ça, vous
pour moi,
n'étiez
cet
pas.
engagement n'est pas neuf.
C'est ça, on a vu partir dans pas mal de missions civiles des gens qui, par ailleurs, sont des militants au quotidien. Je pense que vous, ça n'a pas été le cas. Vous avez eu une certaine activité politique dans votre jeune temps, comme vous venez de l'évoquer, mais ça s'est interrompu. On ne peut pas dire que ce départ en Palestine s'inscrive dans quelque chose de quotidien depuis 20 ans chez vous.
C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai un petit peu suivi d'autres chemins. Donc maintenant, mon activité principale, c'est de faire de la musique. Donc je dis, mon engagement, c'est quelque part traduit d'une autre manière, je dirais peut-être de manière plus artistique, plus personnelle. Et donc j'ai aussi été en Palestine avec cette sensibilité-là, disons une sensibilité de musicien, donc être à l'écoute de ce que disent les gens, de leurs sentiments, de leur vécu, et aussi également parfois de vision poétique, comme on va pouvoir le constater. Donc loin de la situation que les médias nous offrent ici, où on a toujours l'impression que c'est une situation, effectivement, il y a actuellement une situation de guerre horrible. Mais le vécu des gens là-bas se traduit également par de l'émotion, par de la poésie. Et je crois que sans cet art, ils ne pourraient sans doute pas survivre là-bas à l'horreur qu'ils connaissent depuis pas mal d'années, quoi.
Mais ce qui m'intéresserait de mieux comprendre, c'est qu'est-ce qui a tout à coup fait basculer votre train-train quotidien? Qu'est-ce qui tout à coup vous a décidé à aller vous exposer
Oui.
à quelque chose d'assez dur? Les images
Voilà.
qui nous parviennent de la
Exactement.
Palestine ne donnent pas particulièrement envie d'aller là-bas.
Non.
Et vous, tout à coup, décidez d'y aller, alors que, comme je le disais,
Oui.
vous n'êtes pas quelqu'un qui passe sa vie entre les manifs et les prisons, quoi.
Oui. Quoique ça m'arrive de participer à des manifestations, je suis pas, disons, je passe pas l'essentiel de mon activité à militer, c'est vrai. Je pense que le tournant a été peut-être comme d'autres gens, la fameuse histoire des deux tours. J'ai effectivement senti le monde basculer d'une certaine manière. Et quand
Donc le 11 septembre a vraiment marqué un coup pour.
quotidiennement au niveau des médias, on vous martèle qui n'est pas avec vous et contre nous, qui n'est pas avec nous et contre nous. Choisissez soit Bush, soit le camp occidental, soit le terrorisme. Eh bien, moi, j'ai vite fait de faire mon choix. Je veux dire, cette doctrine-là a permis aujourd'hui, on voit le résultat de cela. C'est une boucherie étendue, et moi, j'appelle ça la boucherie des charognards. Il faut savoir que le voyage que moi j'ai fait était préparé depuis un certain temps. En fait, déjà depuis Noël, moi je me préparais à partir. Le hasard ou le malheur a fait que le jour où j'ai débarqué là-bas, c'était effectivement le lendemain de l'entrée des chars à Ramallah et de la guerre totale. Parce que si Sharon a déclaré la guerre au peuple palestinien, il faut savoir que les gens dans les territoires occupés vivent une guerre larvée depuis des années et donc subissent au quotidien une situation d'occupation. Ça, c'est quelque chose dont on ne se rend absolument pas compte ici, parce que les médias ne montrent que les choses les plus spectaculaires. Alors on arrive à ce résultat-là où les gens ont l'impression que mais pourquoi est-ce qu'ils se tapent dessus comme ça? Ah, ils ont encore fait sauter une bombe. Ah oui, et les chars sont intervenus parce qu'ils ont encore fait sauter une bombe. Mais la situation n'est pas celle-là. La situation au quotidien, c'est celle de gens qui sont humiliés quotidiennement et qui effectivement à certains moments il y a des gens qui pètent les plombs, qui vont se suicider parce qu'ils n'ont plus aucun autre moyen d'agir, je pense.
Et a priori, donc, vous disiez avoir été touché aussi par les images qui nous parvenaient de Palestine, et puis finalement, il y a une espèce de paradoxe où à la fois ces images nous touchent et en même temps, vous y alliez, j'imagine, pour en savoir plus et savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière les images.
Oui, non, moi je ne suis pas allé pour en savoir plus, c'était pas ça le but. Le but était clairement, depuis l'automne dernier, il y a au niveau international une sorte de coordination pour envoyer des groupes de citoyens là-bas. Il faut savoir qu'actuellement, il y a des citoyens de tous les pays qui sont représentés. Ça va des États-Unis au Canada, à l'Italie, la France, la Suisse, la Belgique, les pays scandinaves. Donc ce sont des citoyens, des civils qui se retrouvent là. Et nous disons, nous allons là, tout simplement parce que la société internationale, à savoir notamment les Nations Unies, ne font pas leur boulot. C'est-à-dire que depuis des années, les Palestiniens ont supplié qu'on demande d'envoyer sur place des forces d'interposition, comme ça a été le cas, par exemple, en Bosnie, on sait avec l'efficacité redoutable qui a été celle des forces internationales. Mais bon, donc nous suppléons d'une certaine manière à cela. Et notre but, c'est pas simplement d'aller voir là. Moi, mon but n'était pas de faire une promenade pour voir. Mon but était effectivement, quelque part, d'observer les choses, de tenter de m'interposer quand c'était possible. Il s'est avéré que dans une situation de guerre totale qu'on a dû affronter très vite étant là-bas, ça devenait très difficile. Mais certainement aussi de témoigner ici, et c'est bien la raison de ma présence actuellement dans les studios.
Alors on entend, chose rare, un tapis musical pendant qu'on discute ici. Quand on s'est rencontrés, vous êtes venu avec un certain choix musical. Vous aviez l'air de compter beaucoup sur la diffusion de certains morceaux. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de cet attachement à la musique et à ces musiques qu'on entend là? Est-ce
Oui,
qu'elles véhiculent pour vous?
mais tout d'abord, je crois également pour les gens là-bas, la musique est très importante. Et j'ai eu l'occasion de voir, malheureusement nous n'avons pas les images ici, mais j'ai eu l'occasion là-bas de voir sur les chaînes de télévision arabe et également une retransmission des chaînes de télévision palestinienne, il y a des clips vidéo. Ces clips vidéo sont donc des chansons comme on peut en voir sur toutes les chaînes ici, MTV ou autres. À la seule différence, c'est que là, évidemment, les chanteurs sont soit palestiniens, soit palestiniens d'origine libanaise ou arabe, mais qu'en arrière-fond de ces chansons, les images sont toutes les images de la violence qu'on fait subir au peuple là-bas par la répression, les arrestations, les tirs, les brutalités, comme on a pu le voir de manière très dilué ici sur certains journaux télévisés.
C'est ce qui
Mais ben ça
dérange
fait partie
aussi.
du quotidien des gens, hein, je
Oui, c'est
préfère.
ce qui dérange aussi pas mal de gens. C'est un peu ce culte des martyrs et cette lyrisation comme ça de la souffrance. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous?
Oui, mais justement, on va en parler, je pense. Donc, moi, j'ai amené effectivement ici un disque d'un chanteur qui est très populaire en Palestine depuis des années, qui s'appelle Marcel Khalif. Je crois qu'il est assez connu auprès des Arabes vivant même en Europe ici, à défaut d'être connu auprès des Européens. Le grand poète palestinien Mahmoud Darwish, je pense que lui est connu en Occident parce que ses livres ont été traduits, notamment ses livres de poèmes, a rendu un hommage à Marcel Khalif en ces termes. Il a dit « La chanson de Marcel Khalif a fait évoluer le rapport de la poésie aux gens. Avec lui, la rue commence à chanter, la parole n'a plus besoin de tribune, pas plus que le pain n'a besoin d'un porte-voix. » Et je pense effectivement, c'est ça. Moi, j'étais touché. Voilà comment je me suis ramené avec ça. C'est que dans un des camps de réfugiés que j'ai eu l'occasion de visiter, où je suis resté quelques jours, j'ai été accueilli dans un centre de jeunes, donc une espèce de maison de jeunes, où l'essentiel du travail des animateurs consiste a fait de l'animation auprès des jeunes enfants, par la peinture, par la musique, par le chant. D'abord pour essayer de les garder à l'intérieur, surtout qu'ils n'aillent pas. Parce que leur plaisir, c'est d'aller narguer on va dire, les forces de l'ordre, on va appeler ça comme ça, mais en fait, ils vont narguer l'armée en faisant brûler des pneus, brûler des ordures. Et il est clair que dès que la fumée s'élève dans le ciel, 5 minutes après, ça se met à tirer et les balles passent au-dessus des murs. Et donc j'ai eu l'occasion de recueillir des témoignages là, dont un témoignage qui m'a fort touché, c'est celui d'un enfant qui chante un poème. Et quand j'ai demandé qu'on m'explique de quoi il retournait,
Mais on peut peut-être commencer par écouter la version
oui,
originale.
ou un petit bout de cette version-là. Donc je rappelle, donc on va appeler ça l'enfant au cerf-volant. Voilà, j'ai pas la traduction exacte en français.
Et la version qu'on
C'est
va
une
entendre là,
chanson de Marcel Khalif. Voilà.
et qui est chantée ici par...
Par Marcel Khalif lui-même, qui joue aussi de oud, qui est un instrument très populaire dans tout le Moyen-Orient. Donc voilà, j'essaie de donner un petit peu le sens de ces paroles et de cette chanson. Un jour, un petit enfant jouait dans un quartier du camp. Il jouait avec son cerf-volant. Il suivait du regard le fil monté dans le ciel bleu, lorsque soudain il s'exclama: Je ne sais pas ce qui brille comme ça. Regardez, regardez, un avion vient vers nous. C'est un grand avion. Il n'a pas de fil pour voler. L'avion a des ailes plus grandes que la maison des voisins. L'enfant était comme fou de joie devant cet avion qui révèle plein de secrets. Mais ensuite, une pluie de bombes dévasta sa maison, etc., etc. Donc, c'est un poème. C'est toujours difficile de rendre une traduction d'un poème d'une langue étrangère. Mais le sens est celui-là, c'est le sens de la surprise, simplement de la naïveté d'un enfant qui croit d'abord à une espèce de magie d'un objet qui vole dans le ciel. Et puis, aux surprises, cet avion vient attaquer son village et sa maison. Et je pense que c'est important parce que c'est ce que vivent les enfants là-bas. Donc ils sont dans un traumatisme permanent. Un des animateurs de la maison de jeunes nous disait, écoutez, nous vivons ici dans une situation, on ne sait pas ce qui va se passer dans les 5 minutes qui suivent.
On peut rappeler où était cette maison de
Oui,
jeunes?
ça c'est dans un camp de réfugiés qui se trouve juste en bordure nord de Bethléem. Donc Bethléem qui est toujours ceinturé par les chars actuellement. Heureusement, j'ai encore eu un email de l'animateur, donc Karim. J'ai reçu ça cette nuit. Pour lui, tout va bien, mais par contre, l'armée continue à occuper complètement Bethléem avec des couvre-feux en permanence qui sont levés 1 ou 2 heures par jour, comme on le sait, qui permettent tant bien que mal à la population de survivre. Les gens sont en fait terrés chez eux. Ils sont devant la télévision, ils sont au téléphone pour avoir des nouvelles. Ça, c'est la
Mais
réalité
donc,
là-bas.
quel a été votre parcours là-bas et pendant combien de temps? Quel a été votre itinéraire pendant votre séjour en Palestine?
Donc moi je suis resté une semaine là-bas. Disons que quand on a pu voyager, on a eu très difficile à traverser, comme il y a des barrages militaires tous les 5 km dans les territoires occupés. On a chaque fois essayé de jouer le jeu, de se présenter, donc on était un groupe de 20, de se présenter au checkpoint devant les militaires de manière pacifique pour essayer de négocier un droit de passage. On a réussi une ou deux fois à passer, disons, officiellement, en amadouant les soldats. La plupart du temps, on s'est fait, disons, remballer au bout de tergiversation d'une heure de négociation. Et donc, à ce moment-là, on faisait demi-tour et on a réussi quand même à parfois traverser les endroits en trouvant des petits chemins guidés par des Palestiniens. Donc, on est allé
Vous
là.
étiez un groupe exclusivement belge de combien de personnes?
Oui, là, on était un peu moins de 20, je dirais. On était, ça aussi, entre 17 et 18, parce qu'il y a des gens, 19, des gens qui nous ont rejoints sur place. Mais voilà, on était une petite vingtaine de Belges. À certains moments, on circulait dans une camionnette avec un drapeau belge sorti par la fenêtre, comme les
Ça devait
supporters de
impressionner, ça.
football. J'avais l'impression d'être un supporter de football, à grande honte. Mais c'était pour nous le seul moyen de nous faire reconnaître à la fois de loin par l'armée, de manière à ce qu'ils ne nous tirent pas dessus. Mais donc, on est allé.
Et donc là-bas, vous avez eu donc vous avez quand vous êtes finalement arrivé dans des zones occupées, vous avez pu approcher au quotidien le mode de vie qui est imposé à ces civils en territoires occupés.
Oui,
Et
oui.
vous pouvez nous raconter voilà le cours d'une journée par exemple dans un camp dans
Mais exactement. Donc les gens sont là. Le camp n'était pas encore complètement fermé à ce moment-là. Les chats sont arrivés dans la nuit à Beit Jala, qui est la cité nord. À moins 3 h du matin, j'ai entendu des tirs. Les gens m'ont dit c'est normal, c'est pas grave, c'est pas ici. Mais en fait, c'était effectivement des bruits de la défense palestinienne et des Israéliens qui attaquaient à 5 km plus loin une autre extrémité de cette agglomération qui est quand même relativement grande de Bethléem, qui est un peu dans la banlieue de Jérusalem finalement. Et quant au quotidien des gens, ben les gens là-bas, l'économie n'existe plus, les enfants ne vont plus à l'école, donc tout est arrêté, les gens sont chez eux, les gens sortent tant qu'il n'y a pas de couvre-feu, qu'il n'y a pas d'attaque. Les gens sortent de chez eux, mais sinon tout fonctionne à ralenti. Et je dirais, voilà, ça c'est la réalité là-bas. Donc ils sont tous très très en attente aussi, toujours en alerte. Moi par exemple, un matin, quand nous étions près de cette maison de jeunes, à un moment donné, on a dû s'abriter derrière un mur parce que, comme je disais, les enfants un petit peu plus loin avaient mis le feu à un tas d'ordures et il n'a pas fallu 2 minutes de fumée pour que les snipers, les soldats israéliens qui sont sur les toits des maisons les plus hautes ou des buildings qui sont occupés par l'armée se mettent à tirer à vue sur tout ce qui bouge, quoi, avec les dégâts qu'on peut imaginer parce que les enfants jouent et ne sont pas conscients du fait qu'ils peuvent ramasser une balle à n'importe quel moment. Ça, c'est la situation là-bas.
Et au fond, au quotidien, ce genre de pression, ça vous mettait dans un état de tristesse profonde, ou alors dans un état de révolte, de colère ou d'optimisme, genre j'ai beaucoup de boulot à faire, quand je reviens, je vais raconter tout ça.
Ben, tout est mélangé, c'est-à-dire au moment même, on ne vit pas la situation comme ça. Au moment même, on garde, au moment même, je dirais, on agit de manière inconsciente pour garder son sang-froid, pour garder le contrôle de la situation, pour faire des photos, pour enregistrer, pour essayer de capter les témoignages de ce que les gens ont à dire. On va peut-être en entendre une petite partie après, d'ailleurs. Je dirais c'est après, une fois en fait c'est quand on revient ici que le travail le plus dur est à faire, parce que sinon, à ce moment-là, un peu comme quand on a vécu, je sais pas, un accident grave ou un deuil de proche, ce n'est qu'après que les émotions affluent et que là on se dit merde, qu'est-ce que c'est pour une. Je dis, notre vie ici en Occident apparaît comme tellement dérisoire, je dirais, les valeurs qui sont notre quotidien ici. Ont quelque chose de futile par rapport à la difficulté qu'ont les gens là-bas simplement de survivre. Donc effectivement, il y a quelque part un besoin pressant d'agir et de faire en sorte que peut-être on puisse faire bouger les choses. Mais je pense que là, c'est un travail de longue haleine et qu'on commence seulement à se rendre compte du boulot à faire, je dirais.
Ben, on va peut-être écouter justement un petit compte-rendu sonore de ton voyage. Tu peux un peu expliquer ce qu'on va entendre. Ça commence, je crois, par le poème que tu nous as traduit tout à
Mais oui, donc
l'heure.
j'ai choisi d'assembler comme ça quelques enregistrements que j'avais pu faire sur place. Donc, notamment cet enfant qui nous récite, qui nous chantonne ce poème, donc avec cette allégorie du cerf-volant dans le ciel et d'un autre côté de l'avion. Ensuite, il y a un témoignage sur, en fait, le camp dans lequel on était avait subi une attaque au début du mois de mars, où plusieurs maisons ont été détruites par les hélicoptères, où les gens ont été plusieurs tués, plusieurs blessés. L'armée a occupé le camp pendant, je crois, 10 jours, et puis s'est retirée. Et ça, c'est une pratique systématique là-bas, c'est que l'armée entre dans des villages, occupe, va chercher, fouiller partout, et puis se retire après avoir arrêté quelques soi-disant terroristes. En fait, ce sont des résistants, ce sont des gens qui font partie du Fatah, qui sont des résistants, je ne peux pas les appeler autrement, des combattants. Voilà. Et ce ne sont pas des terroristes. C'est un peu comme, je pense, sous l'occupation nazie en Belgique, tous les résistants étaient traités par les nazis de terroristes. Bon, on en est là aujourd'hui, là-bas.
Mais est-ce qu'il n'existe pas de terroristes palestiniens? C'est-à-dire, est-ce que pour toi, par exemple, le fait d'aller se faire sauter dans un resto avec une ceinture, c'est du terrorisme ou pas?
Je pense que oui, ça peut être appelé comme ça. Je n'approuve pas ces moyens d'action-là. Je pense que ce ne sont pas les moyens d'action appropriés. Et je pense qu'effectivement, ils font finalement plus de tort, d'une certaine manière, à la cause que du bien. Mais donc, je ne la justifie pas, je ne suis pas d'accord, mais d'une certaine manière, je peux la comprendre dans la mesure où ce sont des actes de désespoir. Et ces actes de désespoir, ils ont existé dans toutes les luttes. Il y a des gens désespérés qui, à un moment donné, se sont fait sauter à mauvais escient dans des endroits publics, si déjà ils ciblaient un petit peu mieux. Mais je crois que les bonnes cibles sont peut-être plus difficiles à trouver. Je veux dire, par
Ben,
exemple, faire sauter le ministre du tourisme israélien, ça n'était pas de la tarte. Je veux dire,
on va écouter ça.
ويتطلع في الجوال
شوفوا شوفوا الطيارة زي عنا الطيارة هاي طيارة كبيرة وإلها خيطان وجوانحها أكبر من بيت الجيران فرفح قلبي وطار عجواني حطيان
وزعنا كل الوان بنمر اسرار
The result was in the first 20 minutes three people killed.
Le résultat en 20 minutes a été la mort de 3 Palestiniens
and approximately 30 people injured.
Et environ une trentaine de blessés.
Then after these 20 minutes Tanks enter to the camp.
Après ces 20 minutes d'attaque des hélicoptères, les chars sont rentrés dans le camp.
The soldiers entered one of the first homes from the north.
Les soldats sont rentrés dans une des maisons du nord du camp.
They opened a hole in the first home.
Ils ont ouvert ils ont fait un trou dans la première maison.
Entered the home, leave some soldiers, move to the next home.
Dans la première maison, ils
because
ont...
the home, the camp is home like this and like this, you know, the same wall for two homes. So they open the hole, leave some soldiers, move to the other until they reach the middle of the.
Donc ils ont laissé des soldats dans la première maison dans laquelle ils avaient pénétré, et puis ils ont pénétré dans la maison suivante, mais pas par la porte. Ils ont brisé les murs qui font murs mitoyens, qui sont d'un seul tenant. Ce ne sont pas deux murs côte à côte, c'est un seul mur. Et donc ils ont pénétré comme ça dans la maison suivante.
So this is one of the holes which is behind us. There was a hole here, a wall.
Ici il y avait un mur.
So they put a kind of TNT or something explosion here.
Ils ont mis une espèce de charge explosive.
I was with some friends in this street. We didn't know that there are soldiers here. We were surprised with the wall getting to us.
Et Karim était avec des amis là un peu plus loin dans la rue et ne savait pas que les soldats étaient occupés à... Enfin, avaient dynamité le mur. Et le mur, tout d'un coup, a explosé, donc volé en éclats.
Another hole in the same home we'll see here.
Donc, dans cette maison, une fois qu'ils y sont entrés, ben, ils ont fait un autre trou, voilà, qui est caché par la couverture.
So this is this, not that the same hole, but you know, those are neighbors speaking with each other. Yeah. This is the blanket is between two homes.
Yeah. And always with the dynamite.
Yeah.
Donc and systématiquement, ils dynamitent les murs pour en faire des trous.
Petit mot d'explication, c'est le, je crois, le mardi 1er avril, toujours à Bethléem, juste à côté du camp. Et donc on a appris que les chars sont entrés à Beit Jala au nord et nous faisons une manifestation avec tous les internationaux. Nous sommes environ 400 Américains, Italiens, Français, Canadiens. Et à un moment donné, on va se trouver face aux chars.
Et donc là, il y a fanfare.
Oui, ce qui reste de la fanfare, il n'y a plus que le clarinettiste. Les autres sont dans un autre camp, bloqués ailleurs. Entendre le char qui s'approche lentement.
Et donc là, c'est un peu le groupe qui s'organise devant le char.
Oui. Donc là, c'est les premiers tirs. Donc, on recule, mais en bon ordre. Donc on avait des gens expérimentés de ce genre de manifestation, à la fois des Palestiniens et des Américains, qui ont formé une chaîne devant et on s'est tous regroupés pour reculer, mais très lentement, sans ne pas céder à la pression.
Et là, ce sont des tirs d'intimidation en l'air ou bien en tir où?
Non, là ils tirent sur la route devant nous et sur les côtés, donc sur les façades des maisons. Et une manifestante à côté de moi, on va l'entendre à un moment donné, d'ailleurs a été touchée par les éclats de balles ou de je pense, donc a dû être emmenée en ambulance. Peu de temps après l'armée, il y avait une équipe de la BBC aussi, une équipe de tournage, trois personnes, qui étaient un peu à l'écart de la manifestation. Et à un moment donné, un des mitrailleurs du char les a pris pour cible également. Moi, j'ai vu les caméramans tomber, mais je n'ai pas vu plus.
Les gens qui vous tiraient dessus depuis le char, avec quel âge vous avez une idée, vous avez vu?
Je dirais quand même relativement jeune. Ce que j'ai vu, le type qui nous tirait dessus avait un rictus. Manifestement, il prenait un grand plaisir à essayer de faire paniquer les gens. Quoi. On nous en signe, allez par là, dégagez. Non, ils ont vraiment des sales gueules, ça je peux dire. Là, je pense que ce sont des professionnels.
Yes,
Et là, vous reculez, vous reculez, vous reculez, on entend le char qui vous colle, quoi.
Oui, oui, c'est ça. En fait, c'était en plus dans... Enfin, nous étions dans la montée, donc nous avons dû reculer et descendre. Et le char attendait, nous laissait reculer pendant 20 mètres, et puis nous fonçait dessus, éventuellement en tirant pour essayer de disperser les gens, de les faire paniquer. Les Palestiniens nous disaient, écoutez, vous avez beaucoup de chance, parce que nous, quand c'est comme ça, ils nous tirent vraiment dessus, dans le tas. Je dis, vous avez de la chance, parce qu'ils... Les tirs ne sont pas directs. Nous, quand ce sont que des Palestiniens, tout simplement, ils se font descendre. Quoi, je dis. Aussi simple que ça. Je dis.
Et qu'est-ce que vous ressentez, vous, à ce moment-là? Vous êtes révolté ou vous rêvez de partir en courant?
Je dirais non, là, je suis révolté. Je ne m'en cours pas. On fait partie d'un groupe, donc on reste ensemble. Et on essaie de maintenir notre résistance, une espèce de résistance passive, mais oui, c'est clair qu'il y a une révolte, je veux dire, c'est évident. On peut que se révolter face à une telle violence, je crois que c'est la seule manière de réagir. C'est de sentir cette injustice au fond de ses tripes. Je crois que ça laisse des traces, effectivement, après. Et ce que j'ai pu voir d'images de Palestiniens, c'est aussi un témoignage que je voudrais apporter. J'ai vraiment été confronté à un apprentissage du courage et de la dignité que ces gens ont, d'oser résister comme ça, à main nue, souvent devant des chars, à main nue devant des militaires armés qui leur pointent une mitraillette sur le ventre, et d'oser continuer à réclamer leurs droits, quoi. Mais avec à la fois cette révolte, mais en même temps cette dignité, je veux dire, moi j'ai pas senti de haine chez ces gens, j'avoue, franchement, c'est peut-être ça qui m'a touché le plus. Contrairement à ce qui se passe du côté israélien, où on sent que ces soldats ont peur, en fait. Mais ces gens, quand ils tirent, en fait, c'est parce qu'ils ont peur. Un des buts, c'est aussi, nous, quand on les aborde, de ne pas leur faire peur, de manière à ce qu'ils ne nous tirent pas dessus, de manière à contrôler. Mais... oui, donc ce que je répète, moi, ce que j'ai peut-être appris le plus là-bas, c'est de voir comment, sur les générations, comme ça, une culture de résistance a pu se construire et se renforcer dans une grande dignité. C'est peut-être finalement ça qui me touche le plus. Et c'est aussi pour ça que je voulais amener notamment des poèmes et des choses comme ça, pour dire, voilà, il y a une culture. Il n'y a pas simplement des terroristes, il y a autre chose. Voilà.
Et quel était l'objectif au fond de cette manif? Parce que moi j'ai vu des images de ça sur le site d'Indymedia. Alors on se dit, mais ils sont fous, ils avancent tout seuls dans une rue déserte, enfin dans une ville déserte. On a l'impression que vous êtes les seuls, vous avez débarqué dans un décor, oui. Dans un grand décor de film américain vide et tout à coup oui. Un char. Quel oui. Était votre objectif?
Mais le but c'était simplement de manifester contre l'occupation. Voilà, nous avons la chance de pouvoir le faire. Les Palestiniens n'ont plus cette chance-là, ils l'ont fait pendant des années, faire des manifestations contre l'occupation. Tout ça n'a pas été fort médiatisé ici parce que c'était pas assez spectaculaire à l'époque. Une simple manifestation ne suffit pas à faire les titres de la une mondiale. Mais donc, je pense que cette action était entièrement justifiée parce qu'on ne peut pas, en tant que citoyens internationaux, tolérer qu'une armée comme ça envahisse des villages, vienne détruire des maisons, vienne arrêter de manière complètement arbitraire des gens, vienne en fait semer la terreur. Parce que le but finalement c'est celui-là, dans toute l'opération qu'on a pu
donc
constater.
Vous n'avez absolument vous n'accordez aucun crédit à l'explication officielle de l'armée israélienne qui est la quête et l'anéantissement des réseaux terroristes.
Non, moi je dis que le terroriste principal dans ce pays-là, dans cette zone-là, c'est l'État d'Israël. Et s'il y a un État voyou dans cette région actuellement, c'est sans doute l'État d'Israël qui est un État voyou et qui se comporte comme un voyou depuis des années, au mépris de toutes les règles internationales, en jetant à la poubelle toutes les résolutions qui ont été votées par les Nations Unies, encore actuellement en refusant de laisser faire son travail une commission d'enquête qui a été désignée par les Nations Unies, lesquelles ont tenté dans un premier temps de négocier avec le gouvernement Sharon des conditions incroyables que le gouvernement mettait à la venue de cette mission d'enquête. Je crois que les Nations Unies ont vraiment montré beaucoup de souplesse dans la négociation pour finalement apprendre que de toute façon, tout était rejeté, que le gouvernement israélien n'avait rien à foutre. Et c'est systématique. Moi, j'appelle ça une politique d'un État voyou. Et s'il y a du terrorisme dans cette région, c'est bien de cet État qui vient, c'est d'un État terroriste qui est évidemment soutenu par les États-Unis, il faut quand même aussi le dire. Je pense que si les choses sont allées aussi loin aujourd'hui, c'est grâce au fait que Sharon a trouvé chez Bush un appui de choix, puisque qui n'est pas avec nous, n'est-ce pas, est contre nous. Voilà, ce qui permet toutes les boucheries et tout ce qu'on a vu récemment, notamment dans le camp de Jenin où il y a eu des destructions vraiment très importantes.
Moi, j'ai trouvé un article issu d'un grand journal israélien, Haaretz, qui parle de cette activité des militaires israéliens dans les camps. Et la journaliste qui s'appelle Amira Haas parle vraiment...
Précisons que c'est la journaliste, je crois que c'est la seule de toute la presse israélienne qui habite Gaza et qui travaille à partir de Gaza.
Et donc, elle publie donc dans un grand journal israélien son point de vue sur, c'est plus qu'un point de vue, je pense qu'elle a beaucoup d'arguments sur les méthodes de l'armée israélienne dans les camps, et elle assimile ça vraiment à une tentative de destruction totale de ce qu'est la culture palestinienne. Notamment, elle explique en détail comment systématiquement, dans toutes les maisons, on va détruire les fichiers, les registres, les ordinateurs, les disques durs, tout ce qui peut archiver la mémoire administrative et culturelle de ce pays, ce qui fait qu'il n'en reste rien du tout. Et elle a vraiment l'air elle qualifie ça vraiment comme un objectif de l'armée qui consiste à renvoyer les Palestiniens à l'âge de pierre pour finalement conforter, pour que ce peuple puisse s'inscrire dans l'image qu'on voudrait tellement dessiner d'eux, donc d'hommes primitifs, assoiffé de sang et obsédé par la haine des Juifs. Quoi.
Oui, un témoignage encore par rapport à cette situation-là, c'est par exemple le camp que j'ai visité, lors de l'attaque qu'ils ont subie au mois de mars, en plein jour, l'école, qui est une école sous les auspices des Nations Unies, puisque c'est un camp de réfugiés, c'est une école de jeunes filles, a été attaquée par l'armée, en plein jour, donc avec 200 enfants dedans, je dirais, ça encore. Ça montre une volonté de détruire même l'enseignement. Mais je crois que derrière ça, il y a plus que... Amira a tout à fait raison dans ce qu'elle raconte. Le but est bien de, soi-disant au nom de détruire les infrastructures du terrorisme, de détruire toute infrastructure étatique. Et ça va jusque même au réseau des maisons médicales. Même les maisons médicales, le réseau des maisons médicales a été... Tout ça a été détruit, et je crois que derrière ça, il y a même plus que ça. Je pense que c'est créer une terreur telle qu'elle puisse, contribuer à un nouvel exode. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'extrême droite israélienne qui ne cache pas ses thèses, qui disent « nous voulons non pas jeter les Palestiniens à la mer, mais les forcer à partir ». Ici, c'est chez nous, nous sommes le peuple élu, la terre Israël est notre royaume, et ces Arabes ont 25 pays pour aller, donc qu'ils aillent ailleurs. Et il faut dire que cette politique a été entamée en 1948, et même avant, dès la création de l'État d'Israël, une partie de cette droite complètement allumée par la Torah prétend mettre en œuvre les prophéties de la Bible, et rétablit le royaume d'Israël dans cette partie du monde. Quoi. Mais c'est un délire total. Et on voit le résultat aujourd'hui.
Tu avais un autre extrait à nous faire écouter. Tu peux nous expliquer de quoi il s'agit?
Mais oui, donc là, c'est dans une assemblée. Souvent, entre internationaux, on s'est réunis le soir après des actions très, très fortes comme celle à laquelle on avait assisté, pour faire un peu le point de notre action, pour préparer les actions du lendemain. Tout ça se faisait parfois en petit comité avec des délégués, soit en grande assemblée plénière. Et là, c'est dans une assemblée plénière. Il y avait des gens qui revenaient de Ramallah, à l'époque où José Bové avait été attrapé manu militari par l'armée. Il faut savoir que d'autres délégations, dont une délégation italienne, se trouvaient à l'hôpital de la Ramallah. Ces gens ont également été attaqués. Ils ont à un moment donné servi de bouclier humain. Et voilà, là, j'ai recueilli le témoignage d'un de ces, on va l'appeler internationaux, coopérants internationaux à la protection, si possible, des populations palestiniennes. Qui exprimait sa honte d'être européen et sa rage vis-à-vis de la passivité des gouvernements actuellement.
Noi pensiamo che in questo momento, anche se siamo venuti come per la pace su questa terra,
nous tous sommes venus ici dans le but de défendre la paix sur cette terre.
Torniamo con la guerra nel cuore.
Mais nous allons rentrer chez nous avec la guerre dans nos cœurs.
Perché pensiamo che i governi dei nostri paesi siano responsabili di quello che accade, del massacro che accade nei territori.
Parce que nous tenons nos gouvernements pour responsables des massacres qui se sont déroulés sous nos yeux dans les territoires occupés.
Non c'è solo Sharon contro il popolo palestinese.
Il ne s'agit pas seulement de Sharon contre le peuple palestinien.
E noi torneremo a casa.
Dès notre retour dans notre pays.
Per combattere la battaglia a casa nostra contro i governi della guerra di casa nostra.
Nous allons devoir affronter nos gouvernements de guerre qui se sont rendus complices de Sharon par leur tergiversation et leur silence.
Voilà, ben, je crois que c'est très clair. Alors à propos de silence, tu m'as rapporté quand on s'est rencontré dimanche un propos que tu as adressé à un Palestinien dans un camp qui disait en t'interpellant « Votre silence nous tue ».
Exactement.
Est-ce que c'est pas le fondement de ta démarche qui t'amène dans nos studios aujourd'hui ?
Exactement, je crois que ça se passe un petit peu de commentaires. C'est bien le problème actuellement. Je pense que les Palestiniens ont été très heureux de voir qu'il y avait encore des gens pour se soucier de leur existence. Mais ils ne manquent pas chaque fois de nous dire effectivement qu'on a une responsabilité énorme et que bon, le silence qui entoure leur vie, leur lutte actuellement, ce silence les tue, l'indifférence les tue, parce que je dirais, il y a actuellement une espèce de conspiration du silence au niveau occidental qui est permis justement par la politique des États-Unis. En montant toujours en épingle les terroristes, etc. Et il faut bien dire que la plupart des gouvernements européens sont très frileux et ne prennent aucune responsabilité. Je dis, on a peut-être encore finalement un des gouvernements qui prend le plus de risques en la matière. Encore une petite anecdote. Quand j'étais là-bas un matin dans le camp, il y a des jeunes qui viennent trouver « Ah, Triomphe !» En disant, ah, vous savez pas quoi, votre gouvernement, la Belgique, a rompu ses relations diplomatiques avec Israël. Alors ils étaient tout contents, ah, vous les Belges, c'est formidable, vous êtes les seuls qui nous soutenez. Et en fait, simplement, ils avaient une information sur la chaîne de télévision Al Jazeera, ça avait été mal traduit et gonflé, bon, ça fait partie un petit peu, sans doute, de la campagne de propagande. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement de la région bruxelloise, à l'époque du 1er ou 2 avril, avait pris une espèce de décision de suspendre les accords de coopération technique et scientifique. Alors, ça a été traduit dans les pays arabes par sans doute un traducteur un peu approximatif en disant « la Belgique rompt ses relations diplomatiques ». Bon, ça c'est un exemple, mais je dirais c'est un peu ridicule. Moi, quand j'ai appris la réalité, d'abord je ne me faisais pas trop d'illusions sur ce que pouvait être la politique belge, donc j'ai attendu d'avoir un peu plus de précision. Et puis bien entendu, on va appeler ça une tempête dans un verre d'eau. Je dirais, ces gens, moi je dis, malgré probablement certains hommes politiques qui essayent de faire quelque chose, mais... J'ai quand même l'impression d'avoir face à moi des beaux parleurs, quoi, dans la plupart du temps. Donc on parle, on a des bonnes intentions. Et puis quand il s'agit d'entreprendre une action où on arrête d'importer des produits israéliens, où on arrête de vendre des armes israéliennes, ben non, il ne se passe rien du tout et c'est d'une hypocrisie monstrueuse. Donc moi, quelque part, je suis toujours honteux d'être européen et quelque part, je dirais, peut-être pour enchaîner avec la séquence suivante, moi, les histoires franco-françaises de Le Pen, etc., je ne dis pas que ça me fait rire, mais je trouve ça un épiphénomène. Je dis, dans la tragédie mondiale qui se vit actuellement, dans la lutte globale qu'il faut mener contre cette politique des États-Unis qui tend à imposer son empire militaire partout avec des alliés comme Israël, au détriment de toute valeur humaine, en faisant souffrir des milliers de personnes. Moi, je pense qu'en Occident, on a encore beaucoup de confort. Je trouve très bien de s'émouvoir et de dire « Attention, la bête est de nouveau devant nos portes. Mais ne nous trompons quand même pas de cible. Je crois qu'il y a des cibles bien plus importantes. Pour moi, Le Pen n'est qu'un bouffon. Et c'est le bouffon du roi Chirac. »
Et on va entendre là une séquence. Vous pouvez nous dire en deux mots le morceau qu'on va entendre, qui est assez rare.
Eh bien voilà, donc moi ce que je dis aussi, c'est, et ce qu'on m'a un petit peu fait comprendre là-bas, c'est que malheureusement la lutte des Palestiniens n'est pas terminée, ça va être quelque chose de longue haleine. Et donc moi je compare ça, que ce soit la lutte des Africains en Afrique du Sud ou des Vietnamiens lors de la guerre du Vietnam. Et voilà, j'ai retrouvé parmi ma collection de disques un truc qui date de 1968, qui s'appelle Prologue Auguste août 1929. C'est une manifestation des militants pacifistes américains face à la convention démocrate en 1968.
Suivi d'un morceau de Chicago qu'on entend, je vais
voilà, exactement. Et le leitmotiv dans cette manifestation, c'était « The whole world is watching », le monde entier vous regarde. Faites gaffe à ce que vous faites, parce qu'un jour vous aurez à rendre des comptes.
Et voilà, encore une dizaine de minutes pour parler de la France et de ce fameux second tour qui nous attend, de cet immonde premier tour qui nous a frappé. On n'a pas tellement le temps, donc on va tout de suite entrer en matière. Moi, ce que je voulais pousser une petite gueulante, c'est la réaction de Serge Julie dans Libération. C'est pas tellement étonnant, mais il fallait s'y attendre, mais ça reste quand même toujours dur à avaler. Notamment un article de lundi ou mardi, je crois, donc juste après... Juste après le premier tour, évidemment, Serge Julie s'est fendu d'un petit édito où il analyse la fracture politique, c'est le titre de l'édito. Mais dans cet article, il écrit certaines choses qui me dérangent. Il a une façon de renvoyer dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite qui est vraiment inélégante, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous cite, donc il analyse le résultat. Il y a un tiers qui a voté ceci, un autre tiers cela. Et un dernier tiers a choisi des candidats populistes d'extrême droite ou d'extrême gauche. Donc déjà, c'est les mêmes, c'est des candidats populistes d'où qu'ils soient. Sur le marché de l'autorité, ces partisans, de la manière coercitive, ont fait un triomphe. Ils représentent près de 8 millions d'électeurs. Donc il y a vraiment un tiers, 8 millions d'électeurs, qui a voté coercitif. Et c'est Jean-Marie Le Pen, Maigret et les électeurs d'Avec Laguier, de Besançon, etc. Ouais. C'est vraiment assez hallucinant. Et il récidive plus loin dans l'article, il dit « Le Pen est deux des trois candidats trotskistes, c'est candidat de la manière forte ». Alors, faudrait
en fait, ce sont des terroristes sans doute aussi.
Mais tu sais, tu parles de Serge Gilles, mais c'est une réaction qu'on a. Un tas de politologues brillants sur les plateaux de la télévision française ont fait cette remarque géniale de dire, voyez, un tiers de Français ont fait le vote des extrêmes, c'est un vote de protestation.
Le vote anti-politique.
Voilà, ça devenait un vote apolitique. Donc si vous votez Besancenot ou Le Pen, en fait, vous faites un choix apolitique. Et si vous êtes vraiment politisé et intelligent, vous votez Jospin ou Chirac. Ouais, voilà, puis, c'est très clair.
Dans Libération d'hier ou d'avant-hier, il y avait aussi Gérard Mordillat, qui est cinéaste, mais que je soupçonne fortement d'être très proche du PC. Le pauvre PC qui a fait 3, quelque chose pour cent avec Robert Hue et qui évidemment doit trouver des boucs émissaires. En plus, ils vont devoir trouver de l'argent aussi parce que leur campagne ne va pas être remboursée. Et donc, il analyse ça exactement de la même façon, c'est même pire, plus caricaturé. Jean-Marie et Arlette, le couple modèle. Et en fait, ils ont tous montré leur femme.
C'est
mais
assez
y a un couple...
scandaleux, je trouve.
Oui, il y a un couple qu'on n'a pas vu, c'est Jean-Marie et Arlette, parce qu'en fait, personne ne le sait, mais ils sont mariés.
Ouais,
et il analyse ça, même fonctionnement sectaire au FN et à Lutte Ouvrière, pas d'obscène transparence. C'est vrai que Lutte Ouvrière est un peu sectaire, on ne sait pas qui est le patron de Lutte Ouvrière, c'est un type caché. Mais bon, ça ne met pas pour autant Arlette Laguier à équivalence avec Jean-Marie Le Pen sur les politiques. Même âpreté au gain, qui ferait passer le couple Chirac pour des philanthropes. Alors là, il faudra m'expliquer l'âpreté au gain d'Arlette, qui roule en mobylette et qui a cotisé pour son épargne retraite pendant 40 ans de travail au guichet au Crédit Lyonnais. Là, vraiment, il faut m'expliquer l'âpreté au gain. Et puis aussi, rigolo, même anticommunisme fondateur. Elle pétait de plaisir, Arlette, dimanche soir, jubilant d'avoir battu Robert Hue, tandis que Jean-Marie s'extasiait de la disparition du Parti communiste. Moi, il me semble que l'extase d'Arlette, ce n'est pas de l'anticommunisme. Au contraire, elle n'aimait pas fort le communisme de Robert Hue, qu'à mon avis, elle estimait ne plus en être. Et donc, elle se réjouissait de voir les électeurs retourner à un communisme de base. Enfin, j'interprète, mais ça ne doit pas être loin. Et non, tout de suite, ça devient de l'anticommunisme fondateur.
Mais je crois que ça aussi, de manière plus large, moi, cet amalgame entre l'extrême gauche et l'extrême droite, je trouve ça immonde et complètement inacceptable. Ce sont quand même deux choses différentes. Et donc ces gens qui se prétendent au nom de la démocratie n'ont vraiment aucun respect des gens à qui ils s'adressent.
En plus, ça permet d'éluder que s'il y a une proximité avec l'extrême droite quelque part dans le paysage politique français, c'est évidemment à droite qu'il faut la chercher. Et il n'y a pas plus éloigné en termes de politique de l'extrême droite que l'extrême gauche. Mais on voudrait absolument faire oublier ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de programme qui reprenne plus de points de celui de Le Pen que dans le programme de Chirac en termes, par exemple, de gestion de l'insécurité.
Oui, et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut absolument analyser ce résultat avec des boucs émissaires, parce que ce qui est quand même remis en cause avant tout, c'est la classe politique, le large centre de Chirac à Hue. Et ça, évidemment, ils peuvent forcément pas s'en rendre compte. Ou ils font des petits mea culpa, mais très rapidement, on passe au bouc émissaire. C'est forcément ça. Et là, en réaction, c'est pas vraiment en réaction, mais disons en contre-pied, j'ai lu quelques analyses très intéressantes dans De Morgan, et ça m'a même étonné de lire ça là. Il y avait notamment un politologue universitaire qui analysait ça comme un problème d'extrême-centre, c'est-à-dire justement... Tous les politiciens du centre du large centre, comme je viens de définir, de Chirac à Hue, se rapprochent extrêmement fort d'un centre très centriste. Il n'y a plus aucune différence entre leurs programmes, et donc forcément, les gens recherchent des solutions, et dans ces solutions, c'est forcément les solutions plus faciles. Il y a un drôle de bruit, c'est la pluie.
L'infiltration d'eau dans le studio.
C'est la pluie qui tape sur les vitres. Et donc, pour avoir du différent, c'est chez Jean-Marie Le Pen qu'on va, parce que forcément, l'extrême gauche n'est pas extrêmement développée et a des solutions beaucoup plus complexes. Et c'est ce que dit aussi, dans le même numéro du Morgengeist, Fanny Stendhal, qui est un essayiste et poète et littérateur flamand. Et qui, à l'occasion, commet des petits essais politiques, et qui dit notamment, voilà, j'ai vu toutes les affiches officielles dans un village collées côte à côte des 16 candidats, et c'est tous des tronches avec un sourire et un slogan, genre présider autrement, qui veut rien dire. Et il y a juste l'extrême gauche qui met quand même quelques points de programme où il faut aller lire des choses sur l'affiche et où on sait à quoi s'attendre si on vote pour eux. Le reste, c'est juste un sourire berlusconien. Et alors, le même Geert Fanny Stendhal a une analyse qui, à mon avis, est assez pertinente. Il a entendu ça à la radio, une radio flamande, un politologue français qui disait « Toute l'Europe tend vers la droite et d'ailleurs, c'est normal, le marché est de droite ». Et Geert Fanny Stendhal dit « Ça fait très longtemps que j'ai encore entendu quelque chose d'aussi intelligent ». Parce que pour lui, là où la gauche, la social-démocratie, disons, jure par le marché, l'extrême droite s'installe. Et il fait toute une petite liste qui est assez exacte. En Hollande, la gauche jure par le marché, elle obtient un excité comme Pinfortin. En Italie, la gauche jure par le marché, elle encaisse le brigand Berlusconi et les néofascistes. Au Danemark, la gauche jure par le marché, la droite est pire que la droite, les balaye. En Autriche, la gauche jure par le marché, l'extrême droite l'envoie bouler des bancs du gouvernement. Et en France, la gauche jure par le marché, et là maintenant, elle est condamnée à dire « votez à droite ». Donc, il serait grand temps que la gauche...
retourne à gauche.
Oui, retourne à gauche et laisse tomber cette foi en le marché. Et il propose même que tous les partis verts et rouges... mettre comme titre au-dessus de leur programme leur programme politique, le marché est de droite, et peut-être que ça limiterait un peu les dissensions. Moi, ça m'a amusé de lire ça dans The Morgen, parce que le lendemain, ou deux, trois jours plus tard, Yves de Smet, le rédacteur en chef du Morgen, qui s'aime beaucoup, a commis un essai de 2 pages dans son propre journal pour réfuter cette analyse et pour dire non, c'est pas ça la raison profonde. La raison profonde, c'est que la gauche n'arrive pas à parler d'insécurité et la gauche refuse d'être répressive. Alors, paradoxalement, moi je suis d'accord avec Yves de Smet, mais à une nuance près, c'est que sa vision est toute petite, c'est-à-dire que si on révolutionne quelque part la façon de faire de la politique et qu'on balaye d'abord les causes de cette insécurité, de cette petite criminalité qui a l'air de tant emmerder les gens, si on fait vraiment tout pour balayer les causes, après éventuellement, s'il en subsiste, on pourra réprimer. Mais je pense que la première révolution, c'est de balayer les causes, et ça, c'est pas le genre d'analyse d'Yves de Smet qui va nous y inciter.
On a dû enregistrer cette émission pour une raison, je pense qu'on doit raconter, c'est que toi et moi, très courageusement, partons à Paris mercredi.
Le 1er mai.
Le 1er mai. Tu peux dire pourquoi c'est très courageux ? Je me suis déjà un peu
auto-vanté. Il y aura évidemment, les mobilisations vont croissant en ce moment contre le FN, et ça devient de plus en plus... un peu tendu. Il y a d'ailleurs plusieurs commentateurs qui parlent de situations pré-révolutionnaires, et notamment Serge Julli lui-même aussi, dans un édito, prévient, et ça, à mon avis, c'est assez judicieux de sa part. Il dit « Vive cette mobilisation, il faut surtout pas l'arrêter, comme le voudraient certains politiciens traditionnels, de peur que ça pète, mais faites gaffe aux provocations. Il est évident que quand il y a d'énormes mobilisations populaires dans la rue, c'est très facile pour le FN d'envoyer des provocateurs, histoire que ça pète, et entre les deux tours, évidemment, ça la foutrait mal. Ça inciterait beaucoup plus de gens que ceux qui ont déjà l'intention de voter extrême droite, mais la situation est extrêmement délicate, puisque ce même 1er mai, il y aura aussi la grande mobilisation pour Jeanne d'Arc. C'est une tradition maintenant dans l'extrême droite européenne. Elle récupère systématiquement le 1er mai à son profit. Et donc, c'est vrai que la situation sera tendue. Nous, on va essayer d'aller un peu déposer nos micros dans les manifs d'extrême droite, notamment, pas pour leur donner la parole, mais pour un peu croquer l'ambiance, et on verra ce que ça donne. On essaiera quand même de rentrer entier. Voilà pourquoi c'était courageux. J'aimerais quand même préciser aussi, par rapport à ça, que De Morgan a, ce week-end, consacré une page de son journal au DPS, qui est le département protection sécurité du Front National. C'est en fait un espèce de service d'ordre composé de skinheads assez violents. Ils sont environ 3000, c'est tous des volontaires, et il y en a 1900 qui sont actifs de façon permanente. Et c'est des gens qui s'embarrassent pas de beaucoup de civilité. Ils ont des armes du genre matraque électrique dont le voltage peut être mortel. Ils ont des gants avec des doigts d'acier cachés dedans pour donner des coups de poing très efficaces, etc. Et ils avaient un petit journal qui a été interdit depuis, c'est Police et Sécurité, et c'est ce qui finance apparemment ce DPS. Et dans ce petit journal, on trouvait de la pub pour Air France et EDF et des choses comme ça. Et alors là, la personne qui avait infiltré le Front National et qui en parle dans l'article dit « Ces sociétés ne savaient sans doute pas où se retrouvait leur publicité. Permettez-moi de douter. » Enfin bon. Toujours est-il que ça finançait le Front National. Et donc, on va sans doute rencontrer ces gens du DPS. On va essayer d'avoir des petites interviews sympas.
Voilà, on va essayer de ramener des photos. Les auditeurs ne pourront passer au studio, nous admirer, Olivier, ouais. sur les genoux d'un beau DPS.
Voilà, et pour conclure, enfoncer le clou sur cette situation pré-révolutionnaire, ça vient pas uniquement des mobilisations dans la rue et des possibles provocations, c'est Jean-Marie Le Pen en fait qui a toujours annoncé qu'il arriverait au pouvoir par la révolution. Là il y a Libération, il y a 2-3 jours qui reprenait un petit florilège de citations, je peux juste vous en faire quelques-unes. Pour ce qui parle pas de révolution, il y a quelques sympas sur le sida. Les sidaïques, en perspirant du virus par tous les pores, mettent en cause l'équilibre de la nation. Le sidaïque est contagieux par sa transpiration, sa salive et son contact. C'est une espèce de lépreux. Pour les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme est la mère de tous les grands mouvements totalitaires du XXe siècle, car très rapidement, l'aspiration à l'humanisme et à l'humanitarisme débouche sur la terreur. On verra
sur quoi débouche
Le Pen, oui, tout à fait. Alors, par contre, sur les menaces, députés et politiciens peuvent partir pacifiquement tant qu'il en est encore temps. Je ne suis pas certain qu'en des temps futurs, ils en auront le loisir, tant la colère légitime du peuple sera exigeante. Sur la guerre civile, la politique de la ville, qui consiste à privilégier les étrangers et parmi eux les plus marginaux, est en train de mettre en place les prémices de la guerre civile. Sur la guerre ethnique, oui ou non, veut-on pour demain une société multiraciale dont on doit savoir qu'elle débouchera inéluctablement sur une fracture, puis sur une guerre ethnique ? C'est certain, il n'y a que le FN qui puisse arracher le pays à la décadence. Il y a un moment où tout cela va s'arrêter, et là ce sera la révolution. Vous devez vous y préparer parce qu'à un moment donné, les structures vermoulues de notre système vont s'écrouler. Et à propos d'Alain Juppé, Alain Juppé vit dans la corruption, par la corruption et pour la corruption. Il dirige une association de malfaiteurs, une longue liste de corrompus du RPR. Je prends l'engagement devant le peuple français que quand le FN sera au pouvoir, tous ces malfrats, tous ces bandits devront non seulement rendre des comptes, mais rendre gorge. Alors là, commencez à trembler, messieurs les malfrats. Et d'ailleurs, je tremble à votre place et même pour moi-même aussi, parce que tout ça n'annonce rien de bon. Voilà, on vous retrouvera la semaine prochaine pour vous parler de tout ça, si on est encore en vie. Et d'ici là, portez-vous bien.
Pensez un peu à nous quand même.
Et merci Jean-Nicolas pour ton intervention.
Merci, un grand merci. Accueilli.
Voilà. Eh bien voilà, merci d'être resté à l'écoute. La musique que vous avez entendue, on vous le disait, c'était Chicago, sur le CD Chicago Transit Authority. Et donc, il y avait d'abord quelques sons de la manif, c'est le prologue, 29 août 1968, donc lors de la convention. Et puis, le morceau s'appelait Someday. Voilà, retrouvons-nous la semaine prochaine. D'ici là, vous avez les rediffusions, vendredi après-midi à 14h sur Radio Campus 107.2, mardi vers 10h sur Radio Panique 105.4, et puis toujours le site internet www.collectifaupluriel.net/alterecho en un seul mot et avec CH. Voilà, la semaine prochaine, si nous sommes toujours vivants, d'ici là, portez-vous bien, je vous l'ai déjà dit.